Notre emprise magique sur le Sénat, garantie 100% anti-obstruction, ne tenait qu'à une seule raison. Après la disparition de Ted Kennedy en août, la législature du Massachusetts avait modifié la loi pour permettre au gouverneur, le démocrate Deval Patrick, de nommer un remplaçant plutôt que de laisser le siège vacant jusqu'à la tenue d'une élection partielle anticipée. Mais ce n'était qu'une mesure de dépannage temporaire. L'élection avait été fixée au 19 janvier et nous avions besoin qu'un démocrate la remporte. Heureusement pour nous, le Massachusetts était l'un des États les plus démocrates du pays. Aucun républicain n'y avait été élu au Sénat depuis 37 ans. La candidate désignée du Parti démocrate, la procureure générale Martha Coakley, partait grande favorite, faisant course en tête depuis le début avec plus de 10 points d'avance sur son adversaire républicain, un sénateur d'État peu connu du nom de Scott Brown. Tout semblait donc se présenter sous les meilleurs auspices de ce côté-là, ce qui nous permettrait de nous concentrer pendant les deux premières semaines de janvier sur une mission compliquée. Parvenir à un projet de loi unique sur la réforme du système de santé qui soit acceptable aux yeux de tous les démocrates, au Sénat comme à la Chambre des représentants. La tâche était ingrate. Le mépris que se vouent l'une à l'autre les deux chambres du Congrès est une tradition ancestrale à Washington, qui transcende même les lignes partisanes. Les sénateurs considèrent en général que les députés sont impulsifs, bornés et mal informés, tandis que les députés ont tendance à trouver les sénateurs verbeux, pompeux et inefficaces. Début 2010, cette inimitié avait viré à la franche hostilité. Les démocrates de la Chambre, lassés de voir leur énorme majorité freinée dans ses ardeurs et leurs initiatives résolument tournées à gauche entravées par un groupe démocrate au Sénat pris en otage par ses membres les plus conservateurs, affirmaient que la version du projet de loi ratifiée par le Sénat n'avait aucune chance de passer à la Chambre. Quant aux sénateurs démocrates, exaspérés par les rodomontades de la Chambre à leur encontre, ils n'étaient pas moins récalcitrants. Les efforts de Rahm et de Nancy Hahn pour parvenir à un accord entre les deux assemblées ne semblaient mener nulle part, et même les dispositions du texte les plus obscures étaient prétexte à de violentes passes d'armes, les uns et les autres passant leur temps à s'invectiver et à menacer de claquer la porte. Au bout d'une semaine, j'en ai eu assez. J'ai appelé Pelosi, Reid et les négociateurs des deux camps pour les convoquer à la Maison-Blanche, et à la mi-janvier, nous nous sommes tous mis autour de la table dans la salle du Conseil, où pendant 3 jours d'affilée, nous avons méthodiquement passé en revue tous les points de discorde, déterminé ceux sur lesquels les représentants de la Chambre devaient tenir compte des contraintes auxquelles étaient confrontés les sénateurs et ceux sur lesquels les sénateurs devaient lâcher du lest. L'échec n'était pas une option envisageable, ne cessais-je de rappeler à tout le monde, et nous y passerions toutes nos soirées pendant encore un mois s'il le fallait pour parvenir à un accord. Nous progressions lentement mais sûrement. Et j'avais bon espoir que ces négociations finissent par aboutir. Du moins jusqu'au jour où, comme je passais une tête dans le petit bureau d'Axelrod un après-midi, je l'ai trouvé en compagnie de Messina, le nez collé à un écran d'ordinateur, tels deux médecins examinant les radios d'un patient en phase terminale. « Qu'est-ce qui se passe ?» leur ai-je demandé. « On a un problème dans le Massachusetts », a dit Axe en secouant la tête. « Quel genre de problème ?»« Le genre gros », ont répondu Axe et Messina d'une seule voix. Ils m'ont expliqué que notre candidate au Sénat, Martha Coakley, avait vendu la peau de l'ours et passait son temps à cajoler les élus, les donateurs et les huiles des syndicats, au lieu de continuer à faire campagne auprès des électeurs. Pour ne rien arranger, elle avait décidé de partir en vacances 3 semaines à peine avant l'élection, s'attirant aussitôt les foudres de la presse. De son côté, le candidat républicain, Scott Brown, avait vu sa campagne décoller. Avec ses airs sympathiques et séduisants de Monsieur Tout-le-Monde, sans parler du pick-up à bord duquel il se trimbalait d'un bout à l'autre de l'État pour aller à la rencontre des gens, il avait réussi à jouer sur les peurs et les frustrations des électeurs issus des classes populaires, qui avaient été durement touchés par la récession et qui trouvaient, eux qui vivaient dans un État dont tous les résidents bénéficiaient déjà d'une couverture maladie, que la réforme du système de santé fédéral qui semblait m'obséder n'était qu'une gigantesque perte de temps. Apparemment, rien n'avait pu sortir Coakley de sa torpeur, ni l'écart de plus en plus réduit entre son adversaire et elle dans les sondages, ni les coups de fil inquiets que lui avaient passés Harry et plusieurs membres de mon équipe. La veille, à un journaliste qui s'étonnait que son programme de déplacement soit si léger, elle avait répondu en haussant les épaules. « Et vous voudriez quoi, que je passe des heures plantées devant Fenway Park, dans le froid, à serrer des mains ?» Allusion sarcastique à l'étape de campagne de Scott Brown au célèbre stade de Boston, où l'équipe de hockey sur glace locale, les Boston Bruins, avait accueilli les Flyers de Philadelphie pour disputer le traditionnel match en plein air du Nouvel An. Dans une ville connue pour vénérer ses équipes sportives, elle n'aurait pas pu trouver réplique plus efficace pour s'aliéner une bonne partie de l'électorat. « Elle n'a pas pu dire ça !» me suis-je exclamé atterré. Messina a levé le menton vers l'écran. « C'est écrit là, en toutes lettres, sur le site du Globe. »« Non !» ai-je gémi en attrapant Axe par le revers de sa veste et en le secouant d'un geste théâtral, puis en tapant des pieds comme un bambin qui fait un caprice. « Non, non, non !» Mes épaules se sont affaissées à mesure que je prenais conscience des retombées prévisibles de cette sortie. « Elle va perdre, n'est-ce pas ?» ai-je fini par dire. Axe et Messina n'avaient pas besoin de répondre. Le week-end précédant l'élection, j'ai essayé de rattraper la situation en participant à un meeting de Coakley à Boston. Mais il était trop tard. Brown a gagné haut la main. Partout dans le pays, les journaux ont parlé de coups de tonnerre politique et de défaite historique. À Washington, le verdict ne s'est pas fait attendre et il était sans appel. Le projet de loi d'Obama sur la réforme du système de santé était mort. Aujourd'hui encore, j'ai du mal à analyser clairement cette défaite dans le Massachusetts. Peut-être aurais-je dû m'en remettre à la sagesse populaire. Peut-être si je ne m'étais pas focalisé à ce point sur la réforme du système de santé pendant cette première année, si mes interventions publiques avaient porté plutôt sur l'emploi et la crise financière, peut-être aurions-nous réussi à sauver ce siège au Sénat. Ce qui est certain, c'est que si nous n'avions pas couru autant de lièvres à la fois, mon équipe et moi aurions pu repérer plus tôt les signaux d'alerte, mieux encadrer Coakley, et j'aurais pu m'investir davantage dans la campagne du Massachusetts. Mais il se peut tout aussi bien, compte tenu de la situation économique délétère, que nous n'aurions rien pu faire de toute façon, que nos interventions auraient été insignifiantes et impuissantes à faire dévier le cours de l'histoire. Ce que je sais, en tout cas, c'est que sur le moment, nous avons tous eu l'impression d'avoir commis une bourde colossale, et la presse était du même avis. Les éditorialistes appelaient à un remaniement de mon équipe, à commencer par l'éviction de Ram et Dax. Je n'y ai pas prêté grande attention. À mon sens, si quelqu'un était responsable de ces erreurs, c'était moi. Et j'étais fier d'avoir instauré une culture de travail, à la Maison-Blanche comme pendant la campagne, dans laquelle personne ne rejetait la faute sur un bouc émissaire dès que les choses tournaient mal. Mais il était plus difficile pour Ram d'ignorer tout ce tumulte. Ayant passé l'essentiel de sa carrière à Washington, le cycle quotidien de l'actualité était son principal indicateur. Non seulement des performances du gouvernement, mais de sa propre place dans le monde. Il courtisait en permanence les faiseurs d'opinion de la capitale, conscient que le héros du jour pouvait très vite chuter de son piédestal et que les collaborateurs de la Maison-Blanche étaient impitoyablement cloués au pilori au moindre échec. En l'occurrence, il avait le sentiment d'être injustement calomnié. N'était-ce pas lui, après tout, plus que quiconque, qui m'avait mis en garde contre les dangers politiques auxquels je m'exposais à vouloir aller trop vite sur la réforme ? Et comme nous avons tous tendance à le faire lorsque nous sommes blessés ou vexés, il ne pouvait pas s'empêcher de se répandre en complainte auprès de ses amis en ville. Hélas, il se trouve que ce cercle d'amis était un peu trop large. Un mois environ après l'élection dans le Massachusetts, l'éditorialiste du Washington Post, Dana Milbank, a publié un article dans lequel il prenait vigoureusement la défense de Ram, déclarant que la plus grande erreur d'Obama a été de ne pas écouter Emmanuel sur la question du système de santé, avant d'exposer par le menu les raisons pour lesquelles un projet de réforme de moindre envergure aurait été stratégiquement mieux avisé. Voir votre directeur de cabinet s'éloigner du ring en plein combat alors que vous venez de vous faire mettre au tapis n'est pas la situation la plus idéale. Toutefois, même si cet article ne m'a pas fait plaisir, je ne pensais pas que Ram en ait été directement à l'origine. J'ai décidé de mettre ce faux pas sur le compte de l'inattention et du stress. Mais ça n'a pas été aussi facile de passer outre pour tout le monde. Valérie, toujours très protectrice à mon égard, était furieuse. Les réactions au sein des dirigeants de mon équipe, déjà passablement ébranlés par l'affaire Coakley, allaient de la colère à la déception. Cet après-midi-là, Ram avait de bonnes raisons d'afficher une mine contrite quand il est entré dans le bureau ovale. Il ne l'avait pas voulu, m'a-t-il dit, mais il était conscient de m'avoir laissé tomber sur ce coup-là, et il était prêt à me remettre sa démission. « Il est hors de question que tu démissionnes », ai-je répliqué. Oui, il avait commis une erreur, ai-je poursuivi, et il allait devoir s'en expliquer avec le reste de l'équipe. Mais je lui ai dit aussi que c'était un directeur de cabinet formidable, que j'étais certain que ce genre d'erreur ne se répéterait pas à l'avenir, et que j'avais plus que jamais besoin de lui à son poste. « Monsieur le Président, je ne suis pas sûr que... » Je l'ai interrompu. « Tu sais ce que ce sera ta punition ?» lui ai-je dit en le raccompagnant à la porte avec une tape dans le dos. « Quoi donc ?»« Faire en sorte que ce foutu projet de loi soit voté. » Je continuais en effet à croire que la chose était possible, et ce n'était pas aussi extravagant que ça en avait l'air. Notre plan initial, négocier un compromis entre les démocrates de la Chambre et ceux du Sénat pour aboutir à un projet de loi qui aurait toutes les chances d'être ratifié par les deux assemblées, était clairement tombé à l'eau. Nous ne disposions plus que de 59 voix en notre faveur au Sénat, ce qui signifiait que nous n'avions aucun moyen d'échapper à une manœuvre d'obstruction. Mais, comme me l'avait rappelé Phil le soir des résultats de l'élection partielle dans le Massachusetts, il nous restait une issue de secours, et elle ne passait pas par le Sénat. Si la Chambre des représentants ratifiait le projet validé par le Sénat sans y apporter de modifications, alors il pourrait atterrir directement sur mon bureau pour signature et deviendrait de facto une loi. Selon Phil, il était envisageable d'invoquer ensuite au Sénat une procédure dite de « rapprochement budgétaire », laquelle prévoyait qu'une législation comportant des aspects strictement financiers pouvait être soumise au vote avec l'accord d'une majorité simple de 50 sénateurs au lieu des 60 habituels. Cela nous permettrait d'apporter au projet ratifié par le Sénat un certain nombre d'améliorations grâce à une législation distincte. Mais il n'en restait pas moins que cela impliquait de demander aux démocrates de la Chambre d'avaler une pilule qu'ils avaient d'emblée recrachée. Une version de la réforme sans option publique, comportant une taxe Cadillac dont les syndicats ne voulaient pas, ainsi qu'un pesant système de bourses d'échange disséminées sur tout le territoire, une pour chacun des 50 États, au lieu d'un marché national unique sur lequel les gens pourraient choisir leur assurance. « Alors ?» m'avait demandé Phil en se fendant d'un petit sourire. « Vous vous sentez toujours en veine ?»« Plus trop, à vrai dire. » Mais j'avais toute confiance en la présidente de la Chambre des représentants. L'année écoulée n'avait fait que renforcer mon admiration pour les talents législatifs de Nancy Pelosi. Elle était intraitable, pragmatique, et savait comme personne mettre au pas les éléments les plus indisciplinés de son groupe parlementaire, prenant souvent la défense en public de positions politiques intenables prises par certains de ses pairs démocrates à la Chambre, tout en les amadouant en coulisses pour les amener à accepter les compromis inévitables par lesquels il fallait en passer pour obtenir des résultats concrets. J'ai appelé Nancy le lendemain pour lui dire que mon équipe avait rédigé un nouveau texte drastiquement émondé dont nous pourrions nous servir en dernier recours, précisant que je voulais toutefois essayer de faire passer tel quel le projet du Sénat à la Chambre et que pour ce faire j'avais besoin de son soutien. Pendant les 15 minutes qui ont suivi, j'ai eu droit à l'une des célèbres tirades en roue libre de Nancy, laquelle m'a expliqué en quoi le texte ratifié par le Sénat était insatisfaisant, pourquoi les membres de son groupe parlementaire étaient tellement remontés et pourquoi les sénateurs démocrates n'étaient qu'une bande d'incompétents dont la lâcheté n'avait d'égal que l'aveuglement. « Donc ça veut dire que je peux compter sur vous ?» ai-je demandé quand elle s'est enfin interrompue pour reprendre son souffle. « Ma foi, la question ne se pose même pas, monsieur le Président, » a rétorqué Nancy d'un ton agacé. « Nous sommes trop embarqués dans cette histoire pour faire marche arrière maintenant. » Elle a réfléchi un moment. Puis, comme pour tester un argument qu'elle comptait utiliser plus tard pour emporter l'adhésion des représentants démocrates, elle a ajouté « Si nous baissons les bras, ça reviendrait à donner raison aux républicains qui se sont comportés de manière ignoble, non? Nous n'allons tout de même pas leur faire ce plaisir. » Après avoir raccroché, j'ai levé la tête vers Phil et Nancy Ann, qui n'avaient pas cessé de faire les 100 pas autour de mon bureau en écoutant notre conversation, certes presque à sens unique, tout en scrutant l'expression sur mon visage pour tenter de deviner ce qui se tramait. « J'adore cette femme », leur ai-je dit.